CPU car les petits utiles.
Dans cette release, du gros, du lourd, du costaud et du balèze. L'équipe aujourd'hui, Anthony, Pia et Descritch. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux parce que sinon je vais m'énerver. Alors je vais m'énerver sévère et ça va durer longtemps. Ok, alors c'est parti.
CPU carré petit utile.
Bonjour Pia.
Bonjour.
Bonjour Anthony.
Salut Xavier.
Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui voudrais un pot de glace encore plus gros que ton ventre. Petit gourmand. Dans un précédent épisode, nous parlions de réduire les dimensions d'un appareil sans réduire ses fonctions. Aujourd'hui, on va te conter l'inverse. Dans les années 80, t'étais in quand tu exhibais ton radiocassette à pile. Et si celui-ci aurait dû normalement se réduire en dimensions au fur et à mesure qu'on avançait dans la décennie, il connut brusquement l'effet inverse pour devenir un engin de plus en plus gros. On l'appela alors le Ghetto Blaster, ou encore le Boombox. Ouais, gros, ça faisait gros, donc ça faisait plus puissant. Sauf que quand tu l'ouvrais, tu avais du vide. Comme je l'ai dit dans l'émission consacrée à la miniaturisation, donc la dernière fois qu'on a fait un kill by app, j'ai eu une époque où j'ai pu travailler sur du matériel audiovisuel professionnel. La joie de toucher pour de vrai la cassette Betacam. Une cassette à bande immense, noire, rectangulaire, aux dimensions du divin monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et si solide que tu pouvais le manipuler d'une manière sûre et franche, car elle n'était pas prête de péter. Le bidule des vrais pros de la télé, un vrai engin de professionnel, le genre matos lourd de chantier BTP a bétonné une 4 voies qui fait passer la VHS de l'époque pour un râteau de sa château de sable. J'étais touché par la grâce. La grâce des dieux. Qu'est-ce qui te fait rire ?
Le titre.
Oh merde ! XMD se ridiculise. Pardon. Enfin, j'étais heureux jusqu'à ce qu'on me demande de regarder professionnellement une saison complète des Power Rangers Time Force. Oui, j'ai appelé ce sentiment la frustra-joie. Mais revenons à nos jouets de pro. Juste à travailler sur un Sony ES7, une station de montage vidéo informatique. Alors imagine une pile de gros boîtiers, un peu comme des appareils de chaîne IFI, tu sais que tu empiles. Tu avais l'ampli, le lecteur de cassette, le lecteur de CD, puis le lecteur de vinyle. Mais en beige, et qui pouvait se raquer dans des baies 19 pouces, donc 43 cm de côté, et idem en profondeur, et sur ce carré sacré, tu empilais sur le gros cube PC, qui d'ailleurs faisait la hauteur de 19 pouces, l'étage lecteur Betacam, le boîtier lecteur enregistreur DVCam Pro, et des boîtiers de disques durs. À l'arrière, chaque boîtier de disque dur avait une imposante connectique, 4 très grosses prises SCSI, enfin en disque-SI à ce qui paraît, qui faisait bien quand même dans les 15 cm de large. Chaque boîtier était relié à la précédente par 2 de ces gros câbles qui pèsent 1 kg chacun. Ah, j'étais content d'avoir ça. Cette tour faisait professionnel avec ses 1m20 de haut, télé incluse, soit 2 mètres donc posée sur mon bureau. Et bon, à côté de ça, je me trimballais une caméra plus vieille pour aller filmer, mais ça, c'était dans le précédent épisode. 20 jours ou pour rire, on a décidé d'ouvrir un de ces gros boîtiers de disques durs. Et là, la très grande déception. Il faisait 15 cm de haut, mais à l'intérieur, on avait une toute petite carte contrôleur et 2 disques durs en 5 pouces 1 quart, c'est-à-dire environ 15 cm de large, 2,5 de haut et 20 cm de profondeur. Alors, faites le calcul, 27 700 cm3 de volume de boîtier pour 1500 cm3 de disques et d'électronique. En gros, ton chef était très 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 heureux d'avoir acheté un très gros boîtier avec 90% d'espace vide dedans. Tu pouvais même pas étendre. Hein. C'était vraiment posé en plein milieu. Tu pouvais rien mettre d'autre. T'es pas prévu pour. Beaucoup plus récemment, la radio avait un compresseur en panne. Bon, en radio, un compresseur de son, un compresseur de dynamique, c'est l'engin qui évite que le son sature et que la faible voix d'Anthony semble presque au même niveau que celle de Pia, tandis que la mienne ne sature pas. L'appareil que nous utilisons le plus radio éphémère est un Autocom Pro XL de chez Behringer. C'est un best-seller depuis 20 ans, fais gaffe, attention c'est lourd, qui sert aussi bien en bar, en discothèque et donc chez les radios locales. Il se trouve que j'en ai un, ouais, ici dans notre studio improvisé, le beau bébé fait 2 kg sans sa câblerie et en fait, non, j'en ai deux. Et j'ai donc ouvert le généreux boîtier en alu pour en extraire la partie électronique. Et on a ça. On a deux petites cartes d'une largeur de 2 cm et 30 cm de long. Bon, objectivement, il y a bien 2,5 cm de connectique qui en ressortent. Hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Et ça fait en tout 355 grammes. Ouais, je mettrai les photos sur la page du blog, si tu ne me crois pas. Oui, donc ça fait 18% en fait réellement d'utile en termes de poids. Le reste, c'est de l'alu. Mais après, c'est blindé, effectivement, pour les raisons de fuite sonore. Tout récemment, j'étais salarié d'une entreprise qui publie une application mobile pour consulter des journaux. Les journaux leur sont fournis au format PDF. Bon, c'est un format qui est peu pratique sur smartphone, mais qui est universel chez les imprimeurs. Et ça marche à peu près partout, théoriquement, si tu as un lecteur PDF. En Europe du Nord, les journaux passent de plus en plus à l'édition purement numérique, abandonnant le papier et le PDF dans la foulée. Et chacun des journaux en question nous fournissait son SDK, un kit de développement logiciel qu'il fallait intégrer à notre application. Pour donner une idée, dès le premier SDK intégré, la taille de l'application finale doublait. En analysant le SDK du dit quotidien nordique, on trouve les SDK de 4 à 5 régies publicitaires différentes, un player vidéo, les polices de caractère et un inventaire à la Prévert. Le SDK du deuxième journal répétait presque les mêmes inclusions à une, deux régies publicitaires près et quelques traceurs indiscrets qui étaient différents, etc., etc. On allait très vite se retrouver à intégrer 6 fois les mêmes bibliothèques sans avoir le droit d'optimiser et de combiner les briques des SDK entre elles, de par le contrat de reprise avec l'éditeur de chaque journal. De toute façon, les smartphones ont maintenant 64 Go de stockage mini, alors pourquoi se casser la nénette, hein, après tout ? Oui, le problème d'avoir beaucoup d'espace libre entraîne un tic, le grobilisme. Grobil était un Parisien joueur de jeux de rôle au début des années 80 et son rapport au triptyque porte-monstre-trésor consistait à s'accaparer un maximum de ressources sans même en avoir une quelconque utilité. Il fut défini ainsi dans un revue spécialisée Casus Belli, la cervelle du canari et la puissance de feu du porte-avions nucléaire. Toute ressemblance avec le président d'une superpuissance nucléaire serait purement hasardeux et dangereux pour nous-mêmes. Et son surnom est devenu la désignation péjorative de ce stéréotype d'anti-jeu. Mais Civis Pacem 357 Magnum, l'arme de poing la plus puissante, mais l'inspecteur Harry n'est pas d'accord avec moi, et quitte à parler d'armement lourd, je vais te raconter une ultime anecdote, mais mortelle celle-là. Un développeur travaillait chez un fabricant américain de missiles air-sol. Vous savez, les fameuses bombes intelligentes capables d'exploser un hôpital sans toucher aux usines alentour. La bombinette utilise le GPS et le guidage laser pour son informatique embarquée. Le développeur expert en système embarqué s'était rendu compte qu'il y avait un problème de fuite de mémoire dans les programmes. Il avait calculé qu'au bout d'une minute, un logiciel se crachait, forcément, faute de mémoire disponible. Donc il s'en ouvre à la hiérarchie et à ses collègues sur la nécessité absolue de corriger ses multiples fuites de mémoire pour s'assurer la qualité logicielle de ses bombes volantes. Son supérieur hiérarchique trancha le débat. Bof, au bout de 30 secondes, soit la missile a atteint sa cible, soit il tombe à court de carburant. Le système ne tourne jamais une minute. Bon allez, par sécurité, on va doubler la RAM, cela nous donnera de la marge. Quant au prix, le Pentagone réglera rubis sur l'ongle, hein, et puis voilà. Alors est-ce que ça, cette histoire est vraie ? Et croyez-moi, j'ai cherché pour essayer de retrouver les références. Disons que l'information sur sa véracité et secret défense, je devrais tuer qui pourrait en douter. Tout ce que je peux dire, c'est que Saddam Hussein se retrouve à bombarder avec 4 mégaoctets de RAM au lieu de 2 mégaoctets, ce qui augmentait le prix du missile de 2 000 $ à l'époque, sur environ 1,5 million de dollars pièce. Overkill. Enfin, du futur immédiat, le manque d'optimisation logicielle fait que nos ordinateurs, nos smartphones ont besoin de plus en plus de mémoire, de puissance processeur, de capacité de batterie et de débit réseau. Or, bien souvent, le problème vient d'une paresse d'ingénierie en amont, une économie de développement qu'on paie au prix fort tous les jours. Vladimir Cosma, le grand blond avec une chaussure noire, le thème dont d'ailleurs à la flûte de Pan on retrouve le virtuose Jörg Zamfir. Je vais pas y arriver. Tant pis, c'est pas grave. Vous écoutez Radio Éphémère 89.1 MHz, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et donc, eh ben, Pia et Anthony changent d'échelle pour cet épisode de Kill by App.
Kill by App, un podcast présenté par Anthony Mazur et Pia Pandelakis.
Non, alors on a quand même un thème aujourd'hui sur le maxi et on a vraiment des énormes problèmes. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais c'est compliqué, voilà. C'est
ce pas... sera dans la version longue.
Mais j'espère bien. Oui. Alors, nous voilà de retour avec la question du maxi qui est l'envers de la question qu'on avait abordée la dernière fois sur le mini. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, c'est le paradoxe, c'est que c'était une mini-émission, mais on avait tellement de choses à dire que ça a débordé. Et du coup, nous revoilà. On va un peu reparler du mini pour faire la jointure. Et puis, on reparlera du maxi. Mais vous verrez que les deux thèmes, en fait, sont ultra connectés.
C'est ça, ouais. Dès qu'on parle de mini, on parle de maxi, en fait. Alors, moi, tu me dis mini, ben, point kids. Je pense aux enfants, spontanément. Et notamment dans l'actualité, je ne sais pas si ça a déjà été abordé ici, mais Facebook a annoncé il y a quelques mois déjà son intention de lancer un Facebook Messenger for kids, pour les enfants. Ce qui pose du coup tout un tas de problèmes. Donc, c'est grosso modo une plateforme de chat. Les enfants peuvent chatter entre eux. Alors, pour l'instant, ils ne peuvent pas créer leur compte. Ils doivent créer un compte depuis le compte d'un parent. Ce n'est pas autonome. Mais du coup, ça soulève beaucoup d'enjeux. L'accro aux l'addiction aux applications, évidemment. Mais aussi, ce qu'a dénoncé avec raison, il me semble, le chercheur Olivier Hertzscheid, à Fordance Info sur Twitter, toujours ce fantasme de contrôle parental par technologie. Cette idée que les parents peuvent être absents et la technologie va tout solutionner pour eux. Et résout tous les problèmes. Et il me semble que là, déjà, il y a un maxi problème à cet endroit-là.
C'est sûr, mais me lance pas sur le sujet, parce qu'il me semble que sur toutes ces questions de la relation à la discipline et aux structures disciplinaires technologiques, la question des enfants est hyper riche. Et je propose, on est en compète avec Anthony. Anthony veut qu'on fasse les animaux domestiques la prochaine fois. Moi, je suis plutôt sur les bébés. Peut-être que les deux thèmes vont se rencontrer aussi. Pourquoi pas? Peut-être qu'on aura des applis pour gérer et son chien et son bébé. Mais pour le moment, voilà, le concours est ouvert.
Dans les intentions.
Mais c'est possible en plus. Ouais,
là, est-ce que c'est le sujet là aujourd'hui?
Non, c'est pas le sujet. Mais en même temps, si, parce qu'on est toujours sur cette question de comment les apps elles influent nos manières de vivre. Et puis la question du mini, elle est connectée aux enfants, puisque, comme disait Anthony, on a tendance à proposer des versions versions apparemment mini des applis aux enfants, qui sont des versions réduites des applis pour les adultes, mais qui en fait posent des problèmes tout aussi grands. La raison aussi pour laquelle on parle de ça, c'est pour essayer d'établir la résonance entre la question du mini et donc la question du maxi. En général, quand il y a rétrécissement ou investissement d'un univers mini, c'est pour mieux, en retour, revenir dans la question du maxi. Je reprends l'exemple du film que j'ai vu d'ailleurs depuis, Downsizing, qui est le film avec Matt Damon qui est sorti cet hiver. Au final, les personnages rétrécissent à la base pour consommer moins de ressources, mais en termes visuels et esthétiques, c'est une espèce d'excuse pour revisiter tous nos environnements en mode géant, c'est-à-dire que tous nos objets du quotidien, comme les sacs de chips ou les bouteilles d'alcool, j'essaie de ne pas citer de marque, deviennent très très grands, et il y a comme ça ce goût de l'abondance qui vient du fait même d'être mini.
Ouais, je l'ai pas vu, mais c'est ce que tu appelles le fantasme maxi, je crois. Et donc finalement, dès qu'on est réduit, dès qu'on parle de réduction, ça sous-entend que d'autres choses sont trop grandes, sont maxi. Donc les deux sont forcément liés. Mais du coup, on peut se demander par rapport à ton film, si est-ce que tout ce qui est maxi est forcément en attente de réduction. Xavier donnait l'exemple inverse en fait de choses petites qu'on a agrandies comme les Ghetto Blasters.
Ouais, mais j'ai un peu cette image, tu sais, des cœurs qui battent avec les effets. Alors je sais plus comment dire en médecine. Je crois que c'est diastole, systole, tu vois. C'est dès lors qu'une chose est en mini, elle tend vers le maxi, et inversement, dès qu'une chose est maxi, elle tend vers le mini. Mais vous n'échapperez pas aux questions de genre. Vous y avez échappé la dernière fois, donc j'y reviens. Les mini téléphones qui eux marchent, enfin on l'espère, et la concentration des services de téléphone dans un seul terminal qui fait, donc ça peut être quelque chose qui fait muter les usages. On a vu par exemple que là où les téléphones se minifient, les sacs à main se minifient aussi. Alors j'ai trouvé quelques exemples sur le web qu'on vous basculera dans les liens sur la liste de l'émission.
Mini téléphone, maxi fonction.
Ouais, alors mini téléphone, maxi fonction, mais mini sac. Alors en même temps, pas si mini que ça. Mais en fait, tout ça pour dire que dès qu'on a un objet qui est dans le mini parce qu'il veut concentrer un maximum de fonctions, les gestes vont évoluer avec lui et tout l'écosystème des objets qui entourent ce dispositif technique va évoluer aussi. Voilà.
Il faudra qu'un jour on aborde le problème des poches.
C'est exactement ça.
C'était la question. Marie Kirschen en avait parlé dans BuzzFeed. D'ailleurs, la pauvre, elle avait pris un backlash assez phénoménal pour ce qu'elle avait amené. Mais bon,
toi, tu le relirais au téléphone, cette histoire de poche?
Je pense que je ne le relirais pas directement au téléphone, mais il me semble que... Bon, ce que disait quand même Marie Kirschen, pour les gens qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est qu'elle a comparé sur une liste de pantalons assez, assez longue la différence objective de taille de poche entre les pantalons pour hommes et les pantalons pour femmes. Et elle a remarqué qu'effectivement, les pantalons pour femmes ont quand même l'air moins fonctionnels dans la mesure où les poches sont soit toutes petites, soit inexistantes, parce qu'elles sont cousues. Alors après, est-ce qu'il faut le relier au mini? Je ne sais pas, mais on constate quand même qu'il y a une sorte d'équivalence entre la taille des choses et l'importance donnée aux personnes. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient souvent.
Mais du coup, pour rester sur des questions corporelles et d'apparence, voire de genre, je ne peux pas empêcher, tu me diras si je me trompe, mais de voir dans cette mode du mini, des parallèles avec le vocabulaire du slim, qui est assez intéressant au niveau technologique. Je pense à la PlayStation Slim, je cite des marques, peu importe, c'est un peu derrière nous, ou au laptop Air ou léger, enfin tout ce vocabulaire autour de la légèreté du maigrichon, en quelque sorte. Téléphone slim aussi, les choses toutes plates, on compare à chaque itération d'Apple l'épaisseur au quart de millimètre. Et donc voilà, du coup j'y vois immédiatement une injonction au régime à l'endroit des technologies, mais du coup à l'endroit forcément des corps humains.
Tu crois pas si bien dire, parce que ce terme de mini fait aussi partie de toute une analyse critique, notamment féministe. Alors Mona Chollet en France plutôt est assez connue pour en avoir parlé, toute cette question en fait de la minification des corps, c'est-à-dire qu'au fond toute cette éthique du régime, voire même de la musculation au féminin dans certains cas, viserait en fait à rendre le corps plus petit ou plus discret. On en a des exemples assez, assez parlants, notamment la mode virale sur Instagram de la A4 waist, donc littéralement la taille A4, qui consistait en fait à se prendre en photo avec une feuille A4 devant la taille, et le but dans ce cas-là c'est de voir disparaître sa taille, donc sa taille vraiment au niveau du tronc, quoi.
Je crois que c'est moi pour
derrière
moi.
Une feuille A4. Je l'ai fait en cours l'autre jour, j'ai fait la démo, donc ma taille ça ne fait passe, pas 21 cm de large, je peux vous le confirmer. Mais donc, les corps rétrécissent en largeur. Et alors, un truc qui m'a interpellée en faisant des recherches pour l'émission, c'est que les régimes aussi rétrécissent. On voit de plus en plus de mini-diets ou mini-diètes, c'est-à-dire des régimes express qui eux-mêmes tendent à se faire tout petit, puisque le dispositif du régime ne doit plus être suffisamment mini pour nous lui-même.
avec les applications dédiées du coup qui vont avec. Mais du coup, pour en revenir comme aux technologies, qu'est-ce qui nous reste à réduire? Est-ce qu'on n'est pas peut-être en bout de course comme la loi de Moore? On arrive à une saturation, un épuisement. Et du coup, si plus on réduit, plus on augmente, ce que tu as montré avec downsizing, finalement, est-ce que le fantasme mini, c'est pas un fantasme maxi de l'abondance comme tu disais avant? On va pouvoir manger plus, consommer plus, au fur et à mesure qu'on réduit.
Bah, y a quand même cette idée, dans downsizing, c'est très clair. Hein. Les gens qui diminuent voient aussi leur fortune devenir plus grande. Ils peuvent s'acheter plus de choses. Mais si on pense à tout ça, il suffit de revoir Chérie, j'ai rétréci les gosses. Les enfants en question faisaient un festin d'un morceau de cookie qui était tombé dans le jardin. Donc en fait, quand on parle de ces questions de mini ou maxi, on se rend compte qu'un rêve ou un imaginaire qui est très souvent activé, c'est au fond le rêve des ressources illimitées. Donc et en même temps, c'est un rêve quasiment alternatif autour du capitalisme, c'est-à-dire qu'on serait plus riche en accroissant ses richesses, mais en se réduisant soi-même et ses besoins. Mais il y a quelque chose d'un peu autophage, hein, c'est-à-dire qu'on finit par se dévorer soi-même. Et là, encore une fois, dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'était assez sensible avec cette scène où un père manquait de manger son enfant qui était tombé dans les céréales. Mais du coup, le mini rejoint la question des régimes et je crois aussi les questions alimentaires.
C'est ça, du coup, ça touche aussi à l'idée de l'activisme gros, enfin ce qu'on peut appeler ça comme ça. Du coup, je pense à la blogueuse Daria Marx, notamment, qui a été bannie de Facebook en 2016 parce qu'elle avait posté des photos d'elle partiellement dénudée et du coup avec un corps gros. Facebook n'a pas aimé. Et elle a lancé.
Tu es sûr que c'est le fait qu'elle soit grosse qui l'ait bannie de Facebook?
Je pense que c'est la combinaison des deux. Ouais, je pense que ça aurait pas été reçu pareil.
Je pense que c'est plutôt la nudité, ils sont tellement.
Ça se discute vraiment. Ouais. Enfin, en tout cas, les femmes grosses qui prennent la parole sur ces sujets ont tendance quand même à dire que c'est pire quand on est grosse quand même.
Ça, je veux bien le croire.
Ça se voit, ouais, la réaction est plus violente. Et du coup, elle a lancé récemment un podcast qui s'appelle Gras Politique, dont on recommande l'écoute.
Joli.
Alors d'ailleurs, ça m'intéresse ce que tu me dis, parce qu'on commence à parler de gras, de gros, d'obésité. Et moi, je me pose vraiment la question à cet endroit-là du vocabulaire et du choix de mots auquel on est confronté dans le domaine de la tech, pour parler ainsi. Par exemple, quand un site est trop lourd, on dit qu'il est obèse. C'est quand même curieux.
Bloated aussi, ouais, encombré. Ou un truc comme ça. C'est ce que disait Xavier dans les fuites de mémoire. Du coup, et inversement, on parle de version light, on l'avait évoqué la dernière fois, ou light, comme CNN ou autre, le site mobile. Mais bon, du coup, là, on parle du code source qui pourrait être ou devrait être léger. Mais ce que disait Xavier en intro, c'est que souvent, c'est pour des raisons économiques ou de fainéantise des développeurs que ce n'est pas fait, avec tous ces problèmes de stockage et de code perdu. Et donc, je pense que c'est quand même un registre quand même assez différent des personnes dites grosses, dont on considère, en tout cas en France, il me semble que c'est quand même un des pays les plus problématiques en Europe, que si elles sont grosses, c'est qu'elles étaient maigres avant. On a du mal à envisager que c'est quand même plus compliqué que ça.
Oui, et puis que surtout, le fait d'être gros est forcément un problème et qu'il doit être géré. Cependant, j'aurais quand même tendance à revenir sur ce que tu disais, dans le sens où je crois qu'il y a quand même un vrai lien entre cette question de la technologie, des régimes et de la grosseur. Enfin, ça sonne moins bien en français, fat, being fat, ça sonne mieux en anglais, mais bon voilà, on est bloqué avec nos mots. En faisant de nouveau des recherches, je suis tombée sur des livres qui portaient comme titre, par exemple, The Obesity Code, donc le code de l'obésité, ou The Fat Loss Code. Donc on voit revenir en fait cette notion de code dans des discours autour des régimes. C'est-à-dire que nos codes seraient codés ou non pour être gros et il faudrait quasiment décrypter ce code de l'obésité par des régimes qui en seraient la clé.
Qui nous reprogrammeraient, ouais. Quelque sorte.
C'est ça, et du coup, il y a cette idée du biologique pensé comme crypté à l'origine. C'est vrai qu'on a encore du mal, et tu as raison de le pointer, Anthony, en France, on a encore vachement de mal à voir que gros, ça ne veut pas dire repoussant, horrible, et on est quand même dans des situations et des contextes de body shaming, fat shaming, c'est-à-dire on va humilier les personnes grosses parce qu'on considère que de toute façon, elles sont en mauvaise santé, et d'une certaine manière, elles l'ont bien mérité. Et du coup, ça nous amène à une question qu'on a devisée ensemble, à savoir... est-ce que le culte du mini, ce ne serait pas aussi une manière d'aborder un standard corporel? Tu as cité quelques podcasts sur le sujet. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer en ce moment sur le web. Your Fat Friend sur Medium. Bon, Daria Marx, tu l'as dit. Jessamine Stanley aux États-Unis ou Political Butt sur Instagram. Il y a vraiment plein d'activistes qui sont en train d'en parler. Ce sont souvent des femmes parce qu'elles restent quand même les cibles préférées de l'injonction à la minceur. Quand bien même les hommes sont quand même de plus en plus concernés par ça. Et puis, bien sûr, on a quelques clichés grossophobes. J'en parle un peu parce que je trouve que c'est important. C'est vraiment le gros paresseux qui s'empiffre, quoi.
Ouais, bah peut-être je le suis. Je suis trop feignant pour checker l'application Fat Secret qui m'envoie des rappels de mails réguliers. J'en peux plus, ça me spam. Et mais c'est ça. Mais du coup, on va être mini pour les téléphones, mais c'est toujours dans les opposés parce qu'à côté de ça, on peut vouloir le maxi parce que ça coûte pas cher pour les fast-food. Avec ce petit supplément, je pense au documentaire Super Size Me de Spurlock. Et donc, c'est compliqué de refuser un mini supplément. Et donc, peut-être que du coup, dans ce cas-là, le mini n'est qu'un produit d'appel. Le mini se transforme en maxi très vite. C'est ce que faisait Google pendant le Black Friday, où du coup, ils offraient des enceintes connectées Google Home, mais les petites, évidemment, en bundle avec d'autres produits.
Juste une chose d'ailleurs à propos de toutes les références qu'on a données, notamment les références de blog, les liens, etc., les applications, pardon, on mettra les liens sur la page de l'émission sur le site cpu.pm. En attendant, donc, il est pratiquement 11h25 et donc on me fait signe en régie, s'il te plaît, passe la pub. Ok, d'accord, j'ai compris.
Est-ce que vous prendrez autre chose ?
Ah oh oui, mon ami, un bol de pois chiches. Ah. Ah.
Tontine ! Oh ! Oh, pitié !
Cet été, la famille de baisse préférée des Américains fait son comeback.
Oh, c'est un fait !
T'es jalouse parce que je suis svelte ?
Tu parles, Charles ?
Jeff Portnoy. Jeff Portnoy. Jeff Portnoy et Jeff Portnoy dans Les Gros Lards, le recrute.
Il y a des pays où ça, c'est considéré comme un compliment.
Cet été, l'histoire se répète.
Was running fast. While we were walking so slow. Well, I watched us grow and grow. Carried our love in cups to go. Never needed anybody for
Patrick Watson, Into Giants. Patrick Watson, donc, qui était dans la sélection du festival Les Rocomotives en 2012, si je ne me trompe pas. Vous écoutez Radio FMR.
Killed by Love.
On vient de parler des enjeux liés au corps, au genre, dans ces fantasmes maxi-mini. Mais il faut aussi quand même aborder les... Bon, c'est relié évidemment, mais les capacités ou incapacités psychiques et notamment cognitives. Et dès qu'on parle de maxi, tout de suite, à l'endroit de technologie, on en revient sur l'angle du trop, cette dénonciation. Il y aurait trop d'écrans, trop de temps passé dessus, j'en sais quelque chose. Trop d'informations, trop de données, ça va pas. Et donc la technologie en elle-même serait porteuse d'un fantasme de maxi-puissance qui totalisante, qui nous abrutirait indéfiniment.
Bah complètement, et ce qui amènerait avec, bah encore une fois, je ne suis pas obsédée par ça, mais la question du régime, cette fois appliquée non pas au corps, mais donc à nos pratiques avec le numérique. On entend de plus en plus parler aujourd'hui de la notion, alors je vais reparler anglais, de digital dieting, donc le régime numérique, avec un ouvrage de Tara Brabazon qui défend cette idée en parlant de l'infobésité, de l'obésité d'information. Alors elle, Tara Brabazon, elle est prof d'études culturelles, pardon, et elle parle de la relation de ses étudiants au contenu complexe, à la concentration, avec une complainte qu'on connaît que trop bien, l'idée qu'on se concentrerait moins bien, qu'on a une perte d'attention. Et elle pointe le fait qu'on a accès très facilement à de très gros volumes d'informations, sans gros efforts intellectuels ou d'investigation. Et donc sa conclusion à elle, mais elle se discute amplement, c'est que nous devrions apprendre moins de contenu et que c'est plutôt l'apprentissage de l'attention qui devrait nous occuper. Donc non pas maxi beaucoup d'informations, mais un petit peu moins d'informations et plus d'attention sur l'attention elle-même.
Alors, je ne sais pas si elle a raison, mais l'application Moment, avec un S dans mon iPhone, qui compte le temps où l'écran est allumé, est toujours en rouge depuis un mois. Et du coup, pour rester sur ces questions d'attention et de fitness psychique, si la formulation a du sens, peut-être que oui. Peut-être que du coup, une des méthodes, ça m'a été soufflé par Hubert Guillot d'Internetactu, pour diminuer le temps passé sur écran et peut-être revenir dans le orange, voire dans le vert, je n'ai pas encore essayé, ce serait de passer l'interface des OS mobiles en noir et blanc. Alors ça paraît absurde, parce que c'est des écrans qui coûtent très très cher, mais via les options d'accessibilité, on peut à peu près faire ça. Bon, ça bug un petit peu. Et du coup, dès lors, toutes les icônes des applications sont toutes fades, donc le Instagram qui est tout flashy devient un dégradé dégueulasse, enfin à peine un dégradé.
Ça n'a pas de goût.
Et du coup, on ne va pas le solliciter comme un bonbon sale, tout poussiéreux. Et là, on peut-être revivre, mais alors ça pose la question de pourquoi cette surcouche technologique pour aussi peu d'effets, quoi, évidemment.
Mais alors j'ai envie d'en parler et en même temps j'ai aussi envie de faire un fork sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve qu'on peut considérablement modifier la manière dont on est en relation avec nos outils numériques, avec ces fameuses options d'accessibilité. Moi j'avais piqué l'idée à une amie de mettre en fait mon téléphone en mode sonnerie, mais pour personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc mon téléphone clignotait au lieu de sonner. Bon, ça m'a amené petit à petit à tout simplement couper les sons, mais c'était assez intéressant au niveau de l'interaction, ça génère d'autres choses.
Il y a des enjeux créatifs à cet endroit-là, au-delà des problématiques d'inclusion. Il me semble qu'on peut renouveler le vocabulaire formel et d'interface pour les personnes dites valides.
Mais c'est presque bizarre d'ailleurs qu'on parle d'options d'accessibilité. En fait, ça devrait être des options d'usage alternatif. Enfin, en tout cas, il y a des usages oppositionnels qui existent à cet endroit-là. Mais pour revenir sur les questions plutôt d'infobésité, alors je pense que si vous suivez l'émission, ça m'étonnerait que Xavier n'ait jamais parlé des hikikomori. Ce sont des personnes qu'on désigne sous ce nom au Japon, qui sont des reclus ou des recluses, qui passent le plus clair de leur temps en ligne, en général dans une chambre dont ils ne sortent jamais. Mais
qu'est-ce que tu sous-entends là ?
Non, c'est tes thèmes. Je suppose que tu en as parlé. Je dis pas que tu as hikikomori, attention. Hein. Cependant, sur l'info, enfin, ce qu'on appelle l'infobésité, et on sera quand même amené à critiquer ce terme qui est hyper problématique, il existerait une sous-catégorie de hikikomori, donc de reclus ou de recluses, qui seraient des hikikomori du savoir, qui pour le coup auraient une obsession ou un intérêt presque trop déployé pour le coup pour un sujet, et l'aborderaient en mode maxi, donc des espèces de chercheurs, mais plus, et en plus concentrés sur des micro-thèmes.
Bah, je me reconnais un petit peu dans le côté obsessionnel que tu évoques, et c'est vrai que j'aime bien, moi, ces comptes Twitter qui vont parler que d'un truc très très précis. ces micro-thèmes, et du coup, ils vont être en boucle là-dessus, mais avec quand même pas mal de variantes qui rendent la chose agréable. Donc, c'est voilà, une mini-ligne éditoriale, mais pour peut-être des maxis effets, paradoxalement, à ne pas se disperser.
Moi, j'appelais ça les beaufs pointus, mais ce n'est pas très gentil.
Mais
cela étant, non, c'est pas bien, moi qui fais la critique en plus des points de vocabulaire. Mais j'ai écrit sur les beaufs, donc finalement... Peut-être que là, il y a quelque chose à investiguer aussi. Je rebondirai quand même sur cette question de l'infobésité, donc ce fameux terme problématique qui, moi, enfin, en tout cas, moi, m'interroge et me pose problème. Infobésité, en français, c'est un équivalent du terme anglais « information overload », mais « information overload », ça se traduit par « surcharge informationnelle ». Et ça comporte quand même pas les mêmes suggestions et les mêmes connotations que « infobésité ». En plus, il me semble que c'est une idée qui, en plus de stigmatiser potentiellement des personnes obèses, constitue aussi une forme de tarte à la crème. C'est-à-dire que dès qu'on a posé ce diagnostic de « oh, infobésité, nous souffrons de l'infobésité », on se retrouve avec des solutions très ponctuelles et locales, du type « déconnecter pour se ressourcer
bah, ». Ouais, on avait essayé de déconstruire dans l'émission précédente, mais au final, voilà, on en est là. C'est qu'avec ce genre de discours, on n'avance pas et on dégoûte finalement les gens du monde dans lequel ils habitent. Et il me semble qu'on a davantage besoin d'imaginer positive de connexion et de connectique optimiste que du coup de ça. Et j'ai une anecdote à propos de YouTube que je trouve intéressante et qui va peut-être à l'encontre de l'idée que les gens regardent la même chose comme des moutons, espèce d'idée reçue. C'est un site web qui du coup liste automatiquement toutes les vidéos YouTube qui ont zéro vue. Et donc forcément, bah, dès qu'elles sont vues, elles disparaissent de la liste. Et ça, c'est intéressant. Du coup, on revoit le mass-média d'une autre façon. Et donc, ça pose la question de la valeur qu'on attribue à l'audience maxi. Là, la valeur tient au fait que la vidéo n'a aucune audience.
Mais ces questions d'audience, moi, je les trouve vraiment passionnantes. Surtout que dès qu'on fait des recherches sur cette histoire de l'infobésité, de l'overload et tout ça, en ligne, on trouve 1000 guides orientés entrepreneuriat start-up sur comment survivre à l'infobésité, mais qui eux-mêmes ajoutent au brouhaha ambiant et créent en plus...
C'est la start-up nation, Pierre. On n'y échappe pas.
J'essaye pourtant d'y échapper avec tant d'énergie. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant aussi, et c'est dans un article de Schumpeter qu'on mettra en lien aussi sur le site de l'émission, c'est à quel point aussi cette problématique de l'infobésité, pour l'appeler comme ça, elle a généré en fait un lexique, un champ lexical et donc tout un ensemble de termes qui essayent de définir et de saisir en fait la moelle de ce qu'on est en train de vivre autour de cette surcharge d'informations. Alors je vous en livre quelques-uns, vous m'excuserez une fois de plus, c'est en anglais, mais bon, c'est des termes dont la traduction est parfois transparente. Data asphyxiation, donc asphyxiation par la donnée. Data smog, donc brouillard de la donnée. Information fatigue syndrome, bon ça se comprend assez bien, le syndrome de la fatigue informationnelle. Bon, il y en a plein, il y a time famine aussi, la famine temporelle. Alors bon, ça aussi on peut se poser la question de ce que ce genre de termes produisent à l'endroit des gens qui ont vraiment faim. Mais bon.
C'est intéressant, ça vaudrait le coup de faire relire ça par notre ami psychologue Alexandre Saint-Germain, je pense qu'il aurait plein de trucs à dire. Et bon, sur un angle peut-être plus trollesque, cette dépêche AFP d'il y a environ un an, qui disait en substance que tous les articles en ligne se ressemblaient et qui étaient republiés tels quels par toute une bonne partie de la presse française. Et bon, du coup, c'était assez inquiétant. Et moi, je vois ça un peu comme le design de la presse généraliste. C'est pas le problème qu'il n'y a plus d'argent ou de choses à faire, mais c'est que trop de gens font la même chose et qu'on n'en peut plus, quoi.
Moi, je trouve en même temps, comme tu disais, Anthony, il faut toujours aller essayer de voir des points ou des endroits de créativité comme ça sur ces pratiques-là. Moi, il y a une expérimentation que j'adore qui avait été faite par Matt Onan de la revue Wired. Il a essayé pendant un temps assez court, il me semble une semaine de mémoire, de tout liker sans discrimination sur Facebook. Mais vraiment tout ce qui passait sur son thread, il likait. C'était les photos des enfants de ses potes, mais aussi n'importe quelle pub. Et en fait, en likant tout, de manière indiscriminée, il a vu son feed complètement évoluer. Et donc, il en a conclu la chose suivante, c'est que plus on like, plus le contenu est commercial. Parce qu'en likant tout, c'était quand même les contenus commerciaux qui étaient privilégiés. Et au final, à force de liker des choses, on va dire le tout venant de ce qui lui était proposé sur son feed, il a vu son feed évoluer vers les fake news et, on va dire, pencher du côté de la boussole politique sévèrement vers l'extrême droite. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en ne faisant rien ou au contraire en faisant tout, mais du coup de manière indiscriminée, on se retrouve avec un biais qui est quand même assez parlant.
L'extrême du maxi-like, alors je ne sais pas s'il y a une app pour ça, mais je sais qu'il y a un plugin pour ça, ou en tout cas plusieurs plugins, qui permettent d'auto-liker tous les posts Facebook, les vidéos YouTube, j'en ai trouvé pas mal. Et alors c'est plutôt utilisé dans un autre angle, c'est pour brouiller le ciblage publicitaire et ce qu'on appelle les bulles filtrantes. compte. Alors bon, c'est aussi soumis à controverse, cette théorie. Mais du coup, voilà, c'est de spammer par l'obfuscation, de rendre KO les GAFA sous trop de maxi données. Et donc, peut-être que c'est ce que tu appelles data smog, une maxi pollution de données, peut-être pour mieux respirer derrière.
Ouais, je sais pas, moi, je peux pas m'empêcher de préférer quand même la technique de Matt Onan. C'est un peu le harakiri de la notification. Il s'est auto-spammé, quoi.
C'est de l'artisanat du spam aussi, ça, à la main, quoi.
Ouais, mais il y aurait une histoire du spam à faire, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un peu concomitant de l'invention du web, non ?
Sans doute, ou du troll.
Ça, non, ça date d'avant, c'était 78.
Ah.
Le premier spam.
Le tout premier spam.
On retrouvera Richard Stallman, mais donc, c'est un autre épisode.
C'est Internet, en tout cas.
Ouais.
Mais c'est un rapport, effectivement, à l'obésité, à la trop grande place qu'on met sur nos boîtes email parce qu'on a du bruit dedans.
Mais en fait, il s'est auto-spammé, ton mec.
Complètement, complètement. Mais ça découle un petit peu l'imaginaire aussi positif du web. Hein. On connaît Tim Berners-Lee, qui est quand même son inventeur reconnu. Bon, il dit souvent, ou en tout cas, il est rapporté qu'il disait vouloir faire une nouvelle tour de Babel. Bon, est-ce que c'est pas un peu facile aussi de se dire qu'à la place, il a créé une grande poubelle, quoi ?
Ah, c'est sympa.
Bah non, le pauvre. Mais j'adore Tim Berners-Lee. Mais non, mais au-delà de ça, il y a quand même la question de la mémoire et de ce qu'on garde de ce flux informationnel, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et il y a un article de The Atlantic qui posait la question. On va quand même citer notre revue préférée aujourd'hui. Un article qui demande pourquoi on oublie la plupart des livres qu'on lit. Et cet article-là, elle mérite d'essayer d'expliquer comment notre cerveau fonctionne. Donc là, on n'est pas loin des neurosciences un petit peu, mais pas que. Dans l'article, il est question de la courbe de l'oubli. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la mémoire de souvenirs s'effriterait et on reviendrait à la place une mémoire de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se rappelleraient moins de données brutes, de faits, de dates, de ce que nous, on a pour coutume d'appeler la connaissance, et se rappelleraient davantage d'éléments contextuels. C'est-à-dire, par exemple, si je te demande de quoi parlait Kill by App 3, tu n'auras aucune idée. Par contre, tu sauras très bien où ça se situe dans ton architecture de Google Drive et tu sauras très exactement
On revient à l'art de la mémoire où on plaçait des connaissances dans des pièces, sauf que là, on se rappelle des pièces et pas de ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pareil. Paradoxal.
Complètement, c'est ça. Mais en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que ça... Enfin, moi, en tout cas, dans mes usages, j'ai l'impression de me muscler le cerveau quand je fais ça, quand j'essaie de retrouver des arbres de données, des chemins.
C'est ça, c'est pas qu'on devient
chemins.
Plus bête, c'est juste qu'on est en train de muter, quoi. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Ce fantasme de connaissances infinies débouche en fait sur d'autres capacités psychiques et en affaiblit d'autres.
Ouais, et en même temps, j'ai l'impression qu'il faudrait pas non plus trop verser dans une espèce d'enthousiasme absolument... univoque pour ça, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est peut-être pas que de tracer des chemins. Enfin, là-dessus, il y a peut-être une manière de reconsidérer ce qu'on appelle l'intelligence. Bon, voilà, tout ça avec le maxi.
On fait une pause musicale, on reprend après ça. Great Ocean Road par The Gathering. Extrait de l'album How to Measure a Planet, je sais pas si je le dis bien, qui était sorti en 98. La version longue de ce morceau sera sur la version longue de cette émission.
Yeah. deserve only silence.
Vous écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile.
Killed by Up.
Et on reprend sur le format maxi.
On a failli couper le jingle, quelle honte. Après les questions corporelles et les enjeux d'infobésité, et ben les questions d'espace, parce que le maxi, c'est aussi tout simplement ce qui nous encombre et ce qui prend de la place chez nous. Et le numérique, en tout cas les technologies numériques, sont assez intéressantes, parce, et notamment les applications, elles sont toutes petites. Et derrière cet imaginaire miniature et pseudo-dématérialisé de ces apps, et ben c'est plus compliqué, parce que pour qu'elles fonctionnent, il faut quand même une grosse maxi-infrastructure. Et je pense évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer ça, aux data centers et aux problèmes écologiques que cela pose. Ils disparaissent, mais en fait, ils sont bien là quand même.
Bah, ça y est, tu m'as branché sur les data centers. Moi, je te branche sur le farming du Bitcoin. Sauf qu'attention, farming et Bitcoin, là, on a au moins deux termes que les non-geeks ne comprendront pas. Donc, Anthony, je vais même te laisser
plutôt
les
mining,
expliquer.
La génération de blocs par...
J'aurais déjà dire d'ailleurs que farming, ça vient donc du jeu de rôle et c'est justement le comportement dont je parle au tout début, le groupillisme.
Bah, c'est ça, mais de toute façon, les premiers mineurs de Bitcoin sont en fait des gamers parce que c'est eux qui avaient les cartes graphiques. Donc, il y a quand même un lien entre les deux qui est
assez intéressant. Mais t'as pas expliqué ce qu'était un Bitcoin pour les non-geeks?
Non, une émission à part.
Ou un système d'échange monétaire
décentralisé. Trois émissions, on fait
mais non, mais une définition rapide que les gens puissent suivre.
Peer-to-peer cash system, je reprends le titre du white paper, un système de pair à pair de monnaie électronique décentralisée. Voilà, pour faire vite. Ce qui pose du coup de gros problèmes écologiques, évidemment, mais le Bitcoin, c'est déjà vieux, c'est 2008. Et en Islande, alors il y a plein d'articles alarmistes, les gens consomment autant en Islande que, bref, que les ménages, j'en sais rien. Bon, c'est compliqué à calculer, c'est soumis à polémique, il faudrait aussi comparer ça à ce que consomme le trading haute fréquence, c'est juste monstrueux, par exemple, ou les distributeurs de billets. Mais j'ai envie de positiver un petit peu et de regarder ce qui se passe, non pas du côté du Bitcoin, mais des crypto-monnaies ou des cryptos tout court plus récentes, de deuxième ou troisième génération, type Ether ou Neo. Neo, c'est le Ether chinois. Bon, je ne peux pas expliquer ça rapidement, mais grosso modo, 7 ordinateurs, paraît-il, suffisent à faire tourner l'ensemble du réseau dans le monde. Donc, potentiellement, une sortie de crise écologique à cet endroit-là.
C'est aussi un point sur lequel il faut qu'on revienne, parce que ces crypto-monnaies, alors surtout, encore une fois, pour les non-geeks auxquels je pense avec affection, qui peuvent nous écouter, ça peut être difficile à comprendre. C'est des technologies à l'origine assez légères, c'est-à-dire qu'on a l'impression de créer un peu avec pas beaucoup, mais du mini et du mini, ça fait du maxi. On a bien vu ça aussi avec les fluctuations récentes de ces crypto-monnaies dont les valeurs se sont envolées. Je précise quand même que j'ai 50 euros investis en Ether, je compte bien que ça m'en rapporte à peu près 10 000 fois plus.
On va racheter Radio FMR bientôt.
Exactement. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, dès qu'on parle des crypto-monnaies en relation avec toutes ces questions de mini et de maxi, c'est aussi la dimension chiffrée de tout ça et à quel point le web amène ces réflexions chiffrées, mathématiques.
Les analytics, les stats, on adore ça.
Ouais, et puis des stats qui peuvent être impressionnantes. 200 milliards de mails échangés dans le monde par jour, 50 millions de tweets par jour. Alors ça, c'est des données que je trouve chez Nick Arcaway, mais c'est presque des chiffres qui me paraissent assez modestes. On voit que tout de suite, cet imaginaire du petit, il amène l'idée de multiplier les choses petites pour amener du beaucoup plus gros. On l'avait un tout petit peu vu la dernière fois avec la question des nanotechnologies. Là aussi, les non-geeks nous suivront peut-être pas si on parle des Raspberry Pi, qui sont des mini-ordinateurs de la taille d'une carte bancaire et qui sont assez intéressants parce qu'ils sont pas très chers. Mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à construire un super ordinateur avec 750 Raspberry Pi. Donc voilà.
C'est les Gremlins, ton truc?
Les Gremlins.
Ça se multiplie, ça s'additionne, ça fait des gros monstres.
Moi, je pense que tu contrôles mieux les Raspberry Pi que les Gremlins quand même. Mais bon, t'as raison quand même de parler des Gremlins parce qu'il y a un imaginaire horrifique. Hein. C'est-à-dire que le lien entre le mini et le maxi, c'est la question de la croissance et notamment de la croissance non contrôlée. On est en plein, en fait, dans ces imaginaires capitalistes. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être petit, mais à la condition de devenir gros. À moins peut-être que ça soit le contraire.
Ouais, et puis le problème, c'est que la Terre, elle est finie. Au bout d'un moment, on bute, quoi, on tourne en rond. Mais pour reprendre tes stats sur YouTube, alors j'ai un chiffre récent, je ne sais pas s'il est vrai, mais bon, 2,6 millions d'heures de vidéos déposées chaque mois. Et côté visionnage, on serait à environ, si on additionne tous les lecteurs de YouTube, 114 000 années visionnées par jour. Donc c'est juste monstrueux. Et c'est un exemple intéressant au-delà de ces stats, bon, je ne sais pas trop quoi conclure d'ailleurs. Au niveau de l'application YouTube elle-même, c'est qu'on peut évidemment la consulter sur téléphone de façon classique, mais c'est aussi une app qui se regarde en maxi sur les téléconnectés. Et on a tendance à évacuer ça quand on parle de responsive web. web design, de site adaptatif pour tous les écrans. On voit plutôt du côté du mini, mais on oublie qu'il y a tout un champ qui reste encore largement à explorer, me semble-t-il, du côté du responsive pour les grands écrans, donc les télés, les projecteurs ou autres, et que là, il y a encore beaucoup de choses à inventer, voire les moniteurs Full HD. Et paradoxalement, en tant que designer d'interface, je trouve ça beaucoup plus compliqué de concevoir sur ces écrans-là que sur des petits écrans qui sont... maintenant assez bien normé.
Moi j'aime bien ce que tu dis Anthony sur l'adaptabilité, mais je crois aussi que dans l'adaptabilité il y a une notion, ou en tout cas encore une fois un imaginaire capitaliste qui s'invite à cet endroit-là. Le petit et le maxi, ces deux questions-là, elles sont aussi reliées par cette question de s'adapter au fond et d'être petit quand il le faut, de croître au bon moment. Un film qui est super emblématique de ça, je trouve, c'est un film que j'adore d'ailleurs, qui est Ant-Man. C'est-à-dire, je suis très grand quand j'ai besoin d'être très grand, je suis très petit quand j'ai besoin d'être très petit.
Je suis agile.
C'est ça, exactement. C'est le paradigme capitaliste par excellence. Je fais la taille que vous attendez de moi.
Et alors oui, je reprends ton exemple aussi des Raspberry Pi qu'on additionne. Il y a un autre projet plus artistique qui consiste à additionner des téléphones portables dans une soirée, qu'on les laisse de côté, et ça produit un calcul mutualisé, d'une espèce de ronde de téléphone. Ça pose aussi la question qui nous tient à cœur, hein, du système des objets, que les objets ne doivent pas être pensés séparément, mais dans des ensembles techniques, dans des systèmes techniques. Et du coup, le maxi n'est jamais isolé du reste, des mini ou des autres objets.
Ben complètement,
pas en tant que tel.
Mais ça nous ramène aussi à la question de l'habitat qu'on avait un tout petit peu laissé de côté la dernière fois. On peut pas parler de mini maxi sans évoquer cette espèce de mode qui a émergé à un moment donné aux États-Unis, le mouvement des tiny houses, donc les mini maisons, modèle dont on serait a priori revenu. Hein. Alors j'ai vu des articles un petit peu frileux sur la question qui disaient que les gens avaient démonté leurs maisons, les avaient revendues. Mais enfin, dans certains cas, il y a des cas aussi où c'est pas la mini maison qui était en cause, mais carrément parce que la loi n'autorisait pas à construire aussi petit, ce qui est quand même assez intéressant. Bon, ça se passe aux États-Unis, bien sûr. Au final aussi, j'aimerais quand même bien critiquer ce modèle-là parce que, bien sûr, on a eu cette phase où on a critiqué le fait d'avoir de grandes maisons remplies de plein de possessions. On est passé par le modèle des tiny houses qui sont toutes petites, mais on en revient aussi. Bon, grand, petit, mini, maxi, on est encore dans une binarité, un paradigme polaire, binaire, entre deux termes. Et on ne s'en sort pas. Et au final, ça peut nous amener à zapper la question quand même intéressante des besoins. Au-delà même de est-ce qu'il faut être petit ou mini, tout simplement quels sont vos besoins et qu'est-ce qui correspond à ces besoins.
Ce que disait Xavier dans une précédente émission, finalement, c'est que minifier, c'est pas minimaliser. Il y a une différence entre les deux. Miniature n'est pas minimalisme, donc pardon pour ces points de vocabulaire, mais le minimalisme, c'est un courant de l'art contemporain. Il ne faut pas l'employer à n'importe quoi, ça ne veut pas juste dire simple ou épuré, c'est plus compliqué, c'est un rapport au sensible. Mais bon, peut-être qu'on retrouve quand même la question de l'ascétisme dans les deux cas, de se retrouver soi-même.
Bah, je te rejoins sur le fait de faire la distinction entre les deux termes. C'est vrai que minimalisme et miniaturisme, c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut quand même remarquer que dans un discours ou dans des représentations populaires, le minimalisme s'accommode assez bien du miniaturisme. Alors moi, je suis tout à fait obsédée par ces courants, notamment japonais, du minimalisme appliqué à l'intérieur. Marie Kondo sur l'habitat, mais aussi Tomio Sasaki. Alors Tomio Sasaki, c'est mon obsession. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Goodbye Things, littéralement au revoir les choses. Et il a stratégiquement vidé son appartement jusqu'à n'avoir plus, je crois, qu'un matelas qui déroule et il dort dessus.
Mais voilà. C'est pas Goodbye Apps, il a quand même un smartphone, ton gars ?
Ouais, il a un smartphone, ouais. Non,
ah,
non, bien.
C'est
pas si minimal que ça, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a une espèce d'assiette 16 appliqué à la décoration, qui est moi qui m'intéresse et qui en même temps je trouvais bien de son époque. Mais tu l'avais déjà abordé, Anthony, je crois, dans une autre émission. Encore une fois, hein, pour minifier ou minimaliser, il faut déjà avoir des choses à minimaliser. Quand on est pauvre,
ça,
et qu'on n'a rien.
On retombe sur cette question de classe sociale en fait, dans la technologie, c'est que les règles qu'on donne aux autres, c'est pas forcément applicable. Et souvent, quand on parle des autres, on parle de soi. Donc on retombe sur les impasses de la déconnexion qu'on évoquait dans le premier podcast. Ça date un petit peu avec la méthode de rangement qu'on marie. On peut jeter que si on possède déjà. C'est le paradoxe. Ceux qui sont pauvres n'ont rien à jeter, n'ont rien à ranger.
Moi, je crois qu'on s'approche de la fin de l'émission. Et du coup, je me dis que c'est la première fois qu'on a fait cette formule de podcast avec deux termes qui s'opposent. Et c'était pas mal parce que ça a permis un jeu de rebond. Mais surtout, moi, ça m'amène à penser quand même, c'est assez classique, mais néanmoins, ça vaut le coup de le redire, qu'au final, c'est vraiment la question de langage qui est hyper importante. On voit que mini et maxi, c'est utilisé à toutes les sauces, le plus souvent pour nous vendre des choses, bien sûr. Donc, comme tu l'as fait, ça vaut le coup de replacer cette distinction entre mini et micro, entre ce qui prend moins de place et ce qui peut-être est miniaturisé, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis des termes comme infobésité, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça, en fait, de qui on parle, de à quel corps on fait la peau, ou en tout cas à quel corps on place dans une situation
qui est
de légitimité
qui,
moindre.
Qui décrète que l'autre est obèse, c'est toujours la même question. Sous quels critères ?
Et au faire quoi. Une autre pensée qui me vient aussi à la suite de l'émission, c'est que j'ai l'impression dans toutes ces questions de minimalisme, alors soit pour remplir nos appartements, soit pour les vider, ce qui finalement, bon, ces deux attitudes ont l'air opposées, mais quand même elles se rejoignent. J'ai l'impression qu'on est en train d'établir une sorte d'hypersensibilité à nos environnements. Tu vois, quand tu fais la curation de tes applications sur ton téléphone, quand tu fais la curation des trucs dont tu dois te rappeler, quand tu fais de la curation avec des bullet journal ou je sais pas quoi, on est en train d'adopter une sorte d'hypersensibilité à nos usages. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un questionnement de design? Est-ce que c'est vraiment un questionnement au fond sur nos manières de faire?
Je pense qu'on peut renvoyer à Mona Chollet le thème du chez-soi aussi, prendre soin du chez-soi. Et est-ce qu'on, les managers d'environnement, comme tu dis, on peut aussi le sous-traiter. On peut très bien acheter des tasks managers qui vont faire le ménage chez nous, mettre un truc au mur et se sous-traiter cette question-là et du coup dépolitiser complètement l'environnement domestique, ce qui serait dramatique, je pense.
Bah toi, quand, tu vois que c'est marrant parce qu'on a discuté de cette question des managers d'environnement. Toi, évidemment, tu penses à des choses dont on a déjà parlé, tout l'arsenal Uber, Deliveroo et les gens qui viennent faire le ménage chez toi. Mais j'ai l'impression que nous aussi, on se pose comme des managers d'environnement, au final. On manage nos environnements et puis on a ces espèces de termes mini et maxi qui fournissent
peut-être qu'on ferait mieux de les ménager, comme dit Pierre Lamervic, le philosophe, qui oppose le management au ménagement. Il faudrait peut-être mieux de faire le ménage.
Ouais, après, ouais. Ou sidérer, considérer, Marielle Massé aussi, ça marche bien. C'est des bons ouvrages qu'on vous référencera sur le site.
C'est super. Et d'ailleurs, puisque tu parlais opposition maxi-mini, moi je me souviens d'un truc quand même, c'est qu'au début des années 2000, il fallait avoir un gros ordinateur portable pour paraître professionnel. Et après, justement, puisqu'on parlait de la gamme R d'Apple, etc., mais c'était Sony qui avait commencé avant là-dessus, quand les ordinateurs petits devenaient beaucoup plus chers, tout d'un coup, c'était un signe de réussite, donc c'était un signe de professionnalisme en tant qu'indépendant d'avoir une bécane qui était plus petite.
Ça mais peut ça revenir chez les gamers, mais dans des niches maintenant, les gros ordinateurs.
Ça a été parodié aussi. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles du film Zoolander avec Ben Stiller. Ils avaient des téléphones qui étaient si petits, ils n'arrivaient même pas à les tenir entre leurs mains, ils les tenaient entre deux doigts.
Ouais, on a un thème que j'avais mis dans les liens d'ailleurs de l'émission, c'était le fameux téléphone qui s'insère dans le tugudu.
Ah bah, je te reconnais bien là, une petite référence cul pour terminer. C'est
ah oui, non mais attention, hein, c'est propre et c'est bien amené.
Maxi bon goût.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio Éphémère. Pour cette release orientée Kill by App, l'équipe était composée de Pierre Pandelakis, Chief Maximum Officer, Anthony Lacaze, Chief Amplified Officer, Eda Skritch, Chief Ludust Officer. Un jour, on va pouvoir parler des grosses voix du générique. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, les extraits et sa documentation sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, et à l'exception des parties musicales et de l'extrait de film qu'on a diffusé, les chroniques et interviews sont en Creative Commons. N'hésitez absolument pas à l'utiliser, à le référencer, à faire partager. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet le micro pour son impromptu cultivé où elle va parler théâtre, donc forcément du Mahabharata, où je rappelle que la pièce se joue en 28 heures minimum. Monique, qu'est-ce que je te fais pas faire ?